Alors, je prends la suite de frère Léopold Marie pour détailler un peu plus les 7 dons de l'Esprit Saint. Je commence par un petit épisode qu'on vous a déjà raconté hier. Cela se trouve dans les Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Donc cette scène s'est déroulée il y a environ 2000 ans, lors des voyages missionnaires de saint Paul, et pourtant, elle n'a rien perdu de son actualité. Combien de baptisés aujourd'hui pourraient dire « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint, tant celui-ci est inopérant dans leur vie. » Et pourtant, comme nous venons de le voir, comme nous l'avons vu depuis hier, l'Esprit Saint est bien là. Il agit et il veut pouvoir agir de plus en plus dans nos âmes. Et l'un de ses moyens d'action, ce sont justement les dons, le septénaire sacré, dont nous allons parler plus précisément maintenant. Mais avant de détailler les 7 dons du Saint-Esprit, nous voudrions prendre à nouveau conscience que le don de Dieu par excellence, c'est Dieu lui-même. Frère Léopold de Marie nous l'a redit encore. Et les 7 dons du Saint-Esprit ne sont finalement qu'une facette de ses bienfaits. Puis nous verrons plus précisément ce que sont les dons du Saint-Esprit et en quoi ils répondent à tous nos besoins, aux besoins de notre nature humaine. Et enfin, nous passerons en revue les 7 dons du Saint-Esprit pour en découvrir un peu plus les caractéristiques. Donc première petite partie rapide, parce qu'on l'a déjà bien dit, le don de Dieu, c'est d'abord Dieu lui-même. Le Père se donne à nous par le Fils dans l'Esprit Saint. Dieu est amour, nous dit saint Jean. Et se donner, c'est le besoin de l'amour. C'est ce qu'a compris Mère Marie-Augusta dans sa prière. Elle disait « Donum Dei, don de Dieu. C'est l'un de tes noms, mon Seigneur. C'est un de tes titres. C'est aussi ton histoire. Se donner, c'est le besoin de l'amour. » Dans l'histoire du salut, nous avons vu d'abord Dieu se donner à nous en Jésus, et ce don de lui-même à l'homme n'a pas pris fin au moment où s'achevait la vie terrestre de Jésus, au moment de l'ascension. Pour continuer à se donner à nous, Jésus a institué l'Eucharistie, mais il nous a aussi envoyé l'Esprit Saint, par qui il vient habiter en nos âmes, avec le Père, comme il nous l'a promis. En commentant saint Augustin à Sydney pour les jeunes, frère Clément-Marie en a parlé déjà un peu hier, Benoît XVI leur disait « L'Esprit est le don de Dieu. Il est Dieu qui se donne éternellement comme une source intarissable et il n'offre rien de moins que lui-même. » Et si, selon saint François de Sales, la grandeur des présents est estimée selon l'amour avec lequel ils sont faits, celui-ci n'est pas seulement fait avec un grand amour, mais c'est l'amour même qui est donné. Car chacun doit savoir que le Saint-Esprit est l'amour du Père et du Fils. Donc en bref, pour terminer cette partie, le plus grand don qui est fait à tous les baptisés, c'est Dieu lui-même qui vient habiter dans leur âme, et avec lui, l'amour. Sainte Élisabeth de la Trinité s'écrit « J'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel c'est Dieu ». Et Dieu est dans mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé pour moi. Je voudrais dire ce secret à tous ceux que j'aime. Inséparable du Saint-Esprit, ces dons, les 7 dons du Saint-Esprit, sont dans l'âme du baptisé aussi longtemps que lui-même, le Saint-Esprit, y réside, donc tant qu'il n'y est pas banni par le péché mortel. Voyons donc maintenant de plus près ce qu'ils sont, et en quoi ils correspondent parfaitement à notre nature créée, qui est donc limitée, finie et surtout affaiblie par le péché. Deuxième partie, donc 7 dons pour fortifier tout notre être. Les 7 dons du Saint-Esprit sont décrits dans la prophétie d'Isaïe. Isaïe 11, 2. Sur lui, donc sur le Messie, reposera l'Esprit du Seigneur, Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Alors si vous avez bien suivi, nous ne trouvons ici que 6 dons énumérés. Alors d'où vient le 7e ? Eh bien, il nous vient de la traduction de la Bible des Septante, qui a été réalisée à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, car pour traduire en grec l'attitude religieuse du sixième don, qui était exprimée par le terme hébreu « yira », je ne sais pas si je prononce bien, eh bien ce don a été dissocié en deux termes, la crainte et la piété, d'où le septième don. Ces dons, nous les recevons au baptême par la grâce sanctifiante. Ainsi, le baptisé peut vivre et agir sous la motion de l'Esprit-Saint par les dons du Saint-Esprit, nous dit le catéchisme. La confirmation, quant à elle, augmente en nous les dons de l'Esprit-Saint. Elle va les déployer en quelque sorte. Le père Lécuru, donc dans son ouvrage sur les dons de l'Esprit-Saint, nous dit « Par le don de l'Esprit-Saint, le baptême permet de devenir disciple du Christ. La grâce du sacrement de confirmation permet de vivre en témoin fidèle du Christ. » La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit, enseigne le catéchisme de l'Église catholique. Ce sont, dit-il, des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit-Saint. Ils complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Et donc, comme l'a déjà signalé frère Léopold-Marie, nous voyons qu'il existe un lien étroit entre les vertus et les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit se distinguent des vertus moins par leur nature et leur objet que par leur mode d'action. En fait, les dons du Saint-Esprit vont faciliter l'exercice des vertus, va le perfectionner. Comme les vertus, les dons sont des dispositions permanentes, on appelle ça des habitus, qui peuvent sommeiller dans l'âme, mais elles ne s'éteignent pas tant que la grâce demeure. Les vertus sont comme des forces communiquées à l'âme pour opérer le bien, et les dons vont permettre, vont donner l'impulsion qui va mettre ces forces en mouvement. En perfectionnant les vertus théologales et cardinales, les sept dons du Saint-Esprit vont nous aider à lutter efficacement contre les sept péchés capitaux. Monseigneur Landrieux, donc l'ancien évêque de Dijon dont nous avons déjà parlé hier, explique qu'en face d'un obstacle insolite, d'une difficulté plus grave, d'un devoir plus ardu, d'une épreuve plus lourde, de sacrifices plus pénibles, il arrive que les vertus fléchissent. Il faut donc à l'être surnaturel un surcroît de force, des ressources supplémentaires, une impulsion plus puissante qui viennent directement de Dieu, des dons de son esprit. Les dons du Saint-Esprit sont alors des aptitudes à recevoir les impulsions de l'Esprit-Saint. Ce sont des souplesses en même temps que des énergies. On les compare souvent à sept voiles qui vont être gréées sur l'âme, sur le bateau de notre âme pour capter le souffle de l'Esprit-Saint et ainsi se laisser conduire par lui. Benoît XVI disait aux jeunes « Ces dons de l'Esprit ne sont ni une récompense ni un titre de reconnaissance. » Ils sont simplement donnés. Et ils exigent de la part de celui qui les reçoit une seule réponse, « J'accepte ». Nous percevons ici quelque chose du mystère profond de ce qu'est être chrétien. Ce qui constitue notre foi, ce n'est pas en premier lieu ce que nous faisons, mais c'est ce que nous recevons. Et c'est ainsi que l'on peut dire avec Mgr Landrieux que les actes les plus parfaits des vertus, ceux qui finalement font les saints, les apôtres, les docteurs, les martyrs, procèdent en réalité des dons. C'est à l'intime de notre cœur qu'agit l'Esprit-Saint. Le cœur, dans le langage de la Bible, c'est le centre de l'existence humaine. On va dire que c'est le point de contact entre l'intelligence et la volonté, le lieu intérieur où la personne va trouver son unité et son équilibre. En fait, c'est le centre qui informe toute son existence. Et ainsi, les dons du Saint-Esprit agissent sur toutes les facultés de notre être. Ils vont agir sur nos forces et nos énergies, c'est-à-dire sur notre corps, sur notre sensibilité, notre affectivité, nos émotions, donc sur notre cœur, sur notre intelligence, notre imagination, notre volonté, notre esprit. Ces dons nous apportent une lumière divine pour discerner, comprendre, vouloir, agir et aimer selon Dieu. Et on voit ainsi combien les sept dons de l'Esprit-Saint vont fortifier tout notre être en vue du ciel. Et puisque ce n'est jamais seul mais encordé, en Église, que nous montons vers le ciel, Ces dons sont aussi faits en faveur de tout le corps, du corps entier. Benoît XVI écrit « Orientés de par leur nature à l'unité, les dons de l'Esprit nous lient encore plus étroitement à l'ensemble du corps du Christ, en nous rendant davantage capables d'édifier l'Église pour servir ainsi le monde. » Donc maintenant que nous avons vu ce qu'était un don de l'Esprit-Saint, nous allons détailler plus spécifiquement chacun des 7 dons de l'Esprit-Saint. Donc, troisième partie. Dans la prophétie d'Isaïe, la liste des 7 dons nous est donnée de manière descendante. On va de la sagesse, qui va nous faire participer à la vie du ciel, jusqu'à la crainte, qui nous éloigne des vicissitudes terrestres. C'est parce que Isaïe nous parlait du Verbe incarné, qui vient d'en haut pour descendre jusqu'à nous. Mais quant à nous, pour nous aider dans notre ascension vers le ciel, c'est plutôt en partant du bas, de la crainte vers la sagesse, que nous allons maintenant détailler les 7 dons du Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs l'intuition du psalmiste qui nous répète que la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Donc, premier don, la crainte de Dieu. Alors, on associe souvent la crainte à la peur. Et il arrive, c'est vrai, que nous ayons peur de Dieu. Et ça peut être de manière très subtile. On peut avoir peur que Dieu nous soumette à des contraintes insupportables, en aliénant notre liberté. J'ai peur que Dieu me demande d'être prêtre, d'être religieuse. Ou alors, j'ai peur de traverser des épreuves douloureuses par une volonté arbitraire, ce qui revient à avoir peur de la souffrance, en rendant Dieu responsable de la souffrance et du mal. Ou alors, j'ai peur d'être réprouvée, parce que j'ai fait une erreur de parcours. Après ce que j'ai fait, Dieu ne peut plus m'aimer. Ici, il ne s'agit pas du don de la crainte de Dieu. Saint Augustin avertissait ceux qui s'engageaient dans la vie spirituelle. Il disait « La crainte pour laquelle tu crains que Dieu ne t'envoie en enfer avec le diable n'est pas encore pure, car elle ne vient pas de l'amour de Dieu, mais de la crainte de la peine. » Saint Bonaventure va nous aider, il distingue 3 sources de la crainte de Dieu. La puissance de Dieu, la sagesse divine et la sévérité de Dieu. Première source, la puissance de Dieu. Jérémie écrit « Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es grand, ton nom est fort. Qui ne te craindrait, Seigneur ?» On voit ici que cette crainte révèle l'émotion de l'homme quand il se trouve au contact de Dieu, de sa parole, de sa création. En fait, quand Dieu se révèle, l'homme fait l'expérience à la fois de la grandeur divine et de sa petitesse. C'est ce qui arrive à Saint-Pierre, vous savez, après la pêche miraculeuse, quand il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » On voit ici qu'il s'agit d'une crainte révérentielle. C'est un mouvement de notre sensibilité qui se sent tout petit devant les manifestations de la toute-puissance de Dieu. Deuxième source de la crainte, la sagesse divine. Habacuc nous dit « Seigneur, j'ai entendu ton enseignement et j'ai eu peur. J'ai considéré tes œuvres et j'ai tremblé. » En fait, c'est parce que la parole de Dieu dépasse la raison humaine. Dieu connaît toutes les pensées de l'homme, mais qui connaît celle de Dieu? Et l'homme doit accepter de ne pas être à l'origine du monde. Il doit acquiescer à une volonté antérieure à lui, à une volonté qui nous précède et qui donne sens et finalité à tout ce qui existe. Et troisième source de la crainte, la sévérité de Dieu. Dans la Bible, on parle parfois de la colère de Dieu. Alors, il ne faut pas considérer la colère de Dieu comme une colère humaine, comme si Dieu pouvait se mettre hors de lui. En fait, la colère de Dieu s'enflamme avant tout contre le péché qui nous détruit. Alors oui, on peut craindre si nous nous endurcissons dans le péché. Mais le don de crainte n'est pas source de frayeur, il est source de conversion. En fait, c'est la crainte filiale de celui qui aime Dieu et qui craint de faire de la peine à l'être aimé, parce qu'il sait que la seule véritable angoisse, c'est d'être séparé de lui. Le don de crainte va ainsi purifier notre conscience et va nous pousser à adorer Dieu, à nous mettre à genoux devant lui. C'est la crainte d'offenser Dieu parce qu'il est notre Père. Le don de crainte est nécessaire pour progresser dans la vertu de tempérance. Par lui, l'homme tempérant maîtrise ses passions et ses instincts par un effet de la crainte, de la grâce, oui, par crainte de blesser l'amour de Dieu. Et c'est vrai que la société dans laquelle nous vivons nous donne de voir ce qui se passe lorsque la crainte de Dieu a disparu. Alors, l'homme se croit le maître de l'univers, il décide de lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, et on voit à quoi cela nous conduit, à la catastrophe. Craindre Dieu est donc une grande grâce. Cela nous conduit non pas à être écrasés par la grandeur de Dieu, mais à vivre sous son regard, dans la certitude d'être aimé et protégé. Et alors, on fait plus et on fait mieux. La crainte de Dieu faisait dire à Saint Philippe Néri chaque jour « Seigneur, méfiez-vous de moi, je serai capable de vous trahir avant la fin du jour. » Et ainsi, ce n'était pas en lui qu'il mettait sa confiance, mais en Dieu. Deuxième don, la piété. Alors quand nous parlons de piété, nous pensons spontanément prière, c'est vrai. Mais pour mieux comprendre ce qu'est la piété, disons d'abord que le don de piété accroît en nous la vertu cardinale de justice. Et cette vertu consiste dans la ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Alors à Dieu, nous devons l'adoration, le culte. Mais notre relation à Dieu n'a rien à voir avec les relations d'un souverain avec ses sujets. Dieu nous dit « Tu comptes beaucoup à mes yeux et tu as du prix et je t'aime ». Le don de piété va donc nous porter à entretenir nos liens d'amour et d'alliance avec Dieu, et en particulier dans la prière. Parce que dans la vie spirituelle, l'intention de prier ne suffit pas. Le don de piété va nous être donné pour surmonter la tentation de ne pas prier. Il va fortifier notre conscience, nous fortifier contre les illusions, nous délivrer de fausses idées qu'on peut avoir sur la prière, nous éclairer sur nos distractions. En fait, il va nous apprendre à prier comme il faut. Il va rendre nos prières plus ferventes et surtout plus aimantes. La prière, disait le Saint Curé d'Ars, est une douce amitié, une familiarité étonnante. C'est un doux entretien d'un enfant avec son père. Combien un petit quart d'heure que nous dérobons à nos occupations, à quelque inutilité pour prier, lui est agréable. Et la piété du chrétien est d'autant plus sincère qu'elle s'accompagne d'un amour généreux envers le prochain. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus. C'est pourquoi Saint Bonaventure précise « Celui qui veut être pieux envers le prochain doit le supporter patiemment et l'aimer avec charité. Si j'ai la patience d'un côté, j'ai la charité de l'autre, voilà ce qu'est l'exercice de la piété. » Donc on voit toujours ce lien envers Dieu et envers les autres. Et la piété par excellence, c'est l'offrande de soi-même pour faire toute la volonté de Dieu. Et cela s'exprime notamment au moment de l'offertoire. La petite goutte d'eau que l'on verse dans le calice, c'est ce don amoureux filial de tout notre être, l'offrande de nous-mêmes dans l'unique amour du Christ pour son Père. Troisième don, la science ou connaissance du Seigneur. On l'appelle aussi la science des saints, de ceux qui, savants ou non, comprennent avec le cœur beaucoup de choses sur Dieu, sur sa façon de conduire le monde. Le don de science nous est donné pour nous aider à juger des choses comme Dieu. Finalement, c'est voir les choses avec les yeux de Dieu. Et donc, savoir où est le bien et le mal, savoir où est la vérité. C'est un don qui nous permet de voir les événements sur leur véritable jour, ce qui peut être très utile parce que ce n'est pas souvent celui qu'en donnent les médias. Il nous permet de voir Dieu dans les créatures et dans les événements. Un Saint Joseph de Cupertino disait « Je suis heureux partout, car Dieu est partout ». En ce sens, le don de science perfectionne en nous la vertu d'espérance, car il nous rend capable d'envisager et d'évaluer les événements non seulement à partir des critères humains, mais à la lumière de la providence divine. Et ainsi, un événement, petit ou grand, joyeux ou douloureux, en tout cas inattendu, peut devenir un chemin qui nous engage pour l'éternité. Un bel exemple de science, c'est Benoît XVI qui nous donne de voir ce que peut produire la science dans une âme. Il était, nous dit son ami le cardinal Meissner, intelligent comme 12 théologiens, et dévot comme un premier communiant. Et de fait, tout son énorme héritage intellectuel est imprégné de réalisme et d'espérance, car il savait que Dieu agit dans le monde malgré les forces contraires. Il voyait les choses avec les yeux de Dieu. Quatrième don, la force. Combien pouvons-nous nous sentir écrasés devant le poids implacable du mal ou tout simplement devant la tâche qui est la nôtre? Et tout cela peut nous donner l'impression décourageante de labourer la mer. Alors, dans la vie du chrétien, il y a deux nécessités. D'abord, résister et ensuite supporter. Le chrétien doit savoir résister à la fois aux tentations du démon, à ses propres passions, aux sollicitations du monde. Et ça, c'est le combat spirituel ordinaire. Et il faut parfois savoir aussi avoir suffisamment de force pour ne pas renier ses propres convictions. Et alors que cela peut nous attirer des ennuis, petits ou grands. Donc résister, mais aussi supporter. Supporter les épreuves qui ne manquent pas sur un chemin de vie. Le don de force nous permet alors de les porter avec vaillance et de garder la sérénité dans les tempêtes. Il nous fait accepter les desseins mystérieux de la providence dans nos vies. Dans la vie courante, le don de force agit souvent comme l'ange consolateur au milieu d'une épreuve. Il va perfectionner en nous la vertu de force. En fait, on voit les trois étages. Sur le plan naturel, l'homme fort est celui qui reste maître de lui, celui qui connaît ses faiblesses. Ainsi, il apprend à se dominer et il acquiert peu à peu la patience contre l'emportement et la fuite. Et en cela, la vertu cardinale de force le garde paisible et courageux. Vous voyez, c'est le deuxième étage. Il va rester constant dans les turbulences de la vie. Et sur le plan surnaturel, le don de force va l'aider à triompher des craintes et des défaillances qui sont surtout dues au péché, et aux circonstances. Le don de force possède trois qualités. L'efficacité, l'assurance de vaincre et l'activité victorieuse. L'efficacité parce que l'Esprit Saint met à notre disposition la force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'assurance de vaincre, c'est « je peux tout » en celui qui me fortifie, d'où la confiance dans les charges qui nous sont confiées. Et l'activité victorieuse, l'âme va être animée de l'esprit de force qui va venir à bout de tous les obstacles. Et on sait qu'il accomplit invinciblement sa tâche, qu'il va nous permettre de dominer la souffrance. Toutes ces qualités sont mises en action pour peu qu'on soit fermement décidé au don désintéressé de soi. Donc ça va être le don des martyrs. Mais ce don de soi n'est pas réservé aux martyrs tout baptisés, est appelé à offrir au Seigneur sa vie en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, dit saint Paul aux Romains. Un bel exemple du don de force, c'est ce qui a permis à sainte Jeanne d'Arc de revenir à l'assaut pour enlever aux Anglais la Bastille des Tourelles. Jeanne d'Arc s'était retirée après un assaut héroïque, la poitrine percée par une flèche, comme vaincue. Mais quand elle entend Dunois, son compagnon d'armes, faire sonner la retraite, elle se redresse. Elle prie un instant, elle arrache la flèche qui la transperce et elle reparaît à la tête de ses troupes. « En avant !» s'écrie-t-elle, « ils sont à nous !» Et dans un élan superbe, la Bastille a été enlevée. Le don de force a agi. On voit que le don de force, c'est ce qui fait les grandes âmes, les grands cœurs. Cinquième don, le conseil. Si le don de science nous aide à voir les choses selon Dieu, le don de conseil est celui qui va nous aider à la mise en pratique. C'est le passage finalement du général au particulier. Dans telle situation concrète, devant telle décision à prendre, telle résolution à prendre, le conseil va nous aider à voir ce qu'il faut faire ou au contraire ce qu'il ne faut pas faire. L'objectif, prendre les bonnes décisions au bon moment. Et de la sorte, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, à nos propres jugements qui, trop souvent, sont entachés d'intérêts trop humains. Et petit à petit, grâce au don de conseil, notre nature est bonifiée. Car ne l'oublions pas, Dieu dit « mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix ». Et il n'est donc pas toujours facile de penser comme Dieu. C'est là où le don de conseil va nous aider. De manière générale, ce don nous permet de prendre position. À la question de Jésus, « Voulez-vous me quitter vous aussi ?» Pierre répond, « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Vous voyez cet exemple de don. Même si nous ne comprenons pas tout, Dieu sait mieux que nous ce que nous devons faire de notre vie. Et ce n'est pas l'opinion générale. Le conseil va nous aider à conformer nos actes à la volonté divine. Il nous préserve de prendre nos pensées pour des pensées divines. Il permet de rester libre au milieu des conformismes de la société, de faire des choix définitifs ou ponctuels. Ne vous modelez pas sur le monde présent, dit saint Paul aux Romains, mais discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et le fruit du conseil, c'est la paix et la confiance, même si Dieu peut exiger beaucoup de nous. En bref, le don du conseil nous permet de discerner et d'exercer notre liberté, ce qui implique toujours de faire des choix. Et la première liberté, c'est de ne pas faire le mal. Le don de conseil nous aide en outre à refuser la médiocrité et la facilité. En cela, on voit que le don de conseil est un perfectionnement de la vertu de prudence. Elle montre à notre esprit limité des principes supérieurs pour agir comme Dieu le veut, pour nous, en particulier à ce moment-là. Le don de conseil, c'est ce qui a dû fortifier, par exemple, un bienheureux Franz Jägerstätter dans son objection de conscience au pouvoir nazi, même au prix de sa vie. Alors ces cinq premiers dons, la crainte, la piété, la science, la force et le conseil, tendent tous, vous l'avez vu, à l'action. Mais Dieu veut nous attirer vers des hauteurs plus hautes, plus suaves, qui sont davantage de l'ordre de la contemplation. D'où ces deux derniers dons, l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est une clarté extraordinaire, comme une illumination spéciale qui nous rend capables de pénétrer plus profondément les vertus surnaturelles que la foi nous enseigne. Sous l'action du don d'intelligence, on dirait que l'âme voit l'idée hors des mots et qu'elle perçoit la vérité d'un bond sans avoir recours au raisonnement. Alors pour vous donner une image, l'œil, l'oreille et l'esprit humain ne captent que ce qui est à leur longueur d'onde. Par exemple, l'infrarouge comme l'ultraviolet échappe à notre vue. Les ultrasons que certains animaux perçoivent ne sont pas entendus par nos oreilles. Et de même, notre esprit embrasse l'univers, y compris la présence de son créateur, mais à notre hauteur d'homme, de créature, et donc de manière insuffisante et comme extérieure. Pour pouvoir connaître Dieu de l'intérieur, eh bien, il faut être à hauteur de Dieu, comme sur la longueur d'onde de Dieu. Or, nul ne connaît l'intimité de Dieu, ni les dons qu'il nous fait, sinon l'Esprit de Dieu, nous dit saint Paul. Ainsi, le don d'intelligence perfectionne notre acte de foi. En croyant, l'homme s'en remet tout entier et entièrement à Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui se révèle, nous dit le Concile Vatican II. La lumière de l'Esprit Saint peut alors être très nécessaire parce que l'acte de foi défie parfois la logique de l'homme, surtout en ce qui concerne les mystères de Dieu, de l'incarnation à la rédemption. Le don d'intelligence va enraciner en nous la vérité au fond de notre être. Et des lumières étonnantes sont parfois données qui permettent d'éclairer toute une vie. On a l'exemple d'un saint Pierre Giorgio Frassati qui a compris que Dieu est amour et qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et lui, qui était d'un milieu extrêmement aisé, son père était directeur du journaliste italien La Stampa, eh bien, il avait une activité caritative débordante et il donnait tout, son temps, son argent, ses vêtements, etc. Ce don d'intelligence nous permet également de comprendre l'importance de demeurer en état de grâce, donc uni à Dieu. Et il est surtout nécessaire pour atteindre le plus haut sommet de la vie chrétienne. Soyez saints, comme moi, Dieu, je suis saint. Et pour cela, nous sommes poussés à demander le don de sagesse, qui est le plus excellent de tous. Dans ce septième don, la sagesse, nous avons vu l'intelligence comme une illumination. Eh bien, la sagesse va être l'union. Le mot sagesse, il vient du verbe sapérer, goûter, trouver de la saveur. Comme l'affirmait saint Ignace au sujet de l'Écriture sainte, il ne s'agit pas de lire beaucoup, mais de goûter ce qu'on lit. Il s'agit d'une connaissance savoureuse. L'objet qui a été montré dans le don d'intelligence est ici possédé, savouré. Or, l'union avec le souverain bien s'accomplit par la volonté, plus précisément par l'amour qui réside dans la volonté. Et c'est pourquoi l'ennemi de la sagesse, ça va être la superficialité, la paresse, la tiédeur. En soi, La sagesse est simple à comprendre et à pratiquer. Elle consiste à faire la volonté de Dieu, ni plus, ni moins, ni autrement. Et certains l'ont compris très jeune, tel un saint Dominique Savio. Mais la plus parfaite représentation de ce que la sagesse peut produire dans une âme, c'est Notre-Dame, qui n'a jamais rien refusé à Dieu. L'homme sage, c'est celui qui oriente sa vie selon la nature des réalités, qu'elles soient humaines, sociales ou matérielles. Il sait que le monde n'est pas parfait. Il en connaît les limites. Son regard est lucide et sans illusion, mais cela ne le rend pas pour autant blasé et dépité. Il fait sienne la dimension objective des réalités pour construire sa personnalité et enrichir sa vie intérieure. Il commence à être sage lorsqu'il prend conscience de ses limites. Le don de sagesse va perfectionner en nous la vertu de charité. Il permet d'échapper au ressenti pour développer la volonté de suivre le Christ et le chemin qu'il nous propose pour atteindre la plus haute fin pour laquelle nous sommes faits. Nous concluons. Les 7 dons de l'Esprit-Saint sont donc comme les armes du chrétien. Par eux, le chrétien devient témoin du Christ dans toute sa vie et dans le monde qui l'entoure. En effet, l'âme triomphe de son apathie par le don de crainte. Elle triomphe de son indifférence par le don de piété, de son ignorance par le don de science, de sa faiblesse par le don de force, de sa témérité par le don de conseil, et elle s'achemine ainsi vers l'union divine par les dons d'intelligence et de sagesse. Alors ces dons merveilleux, il faut non seulement les recevoir, mais il faut surtout les employer et en vivre. Benoît XVI exhortait ainsi les jeunes à Sydney. Libérez ces dons. Faites en sorte que la sagesse, l'intelligence, la force morale, la science et la piété soient les signes de votre grandeur. Croyez en la puissance de l'esprit d'amour. Et c'est avec Mère Marie Augusta que nous concluons. Que la force de son amour nous fasse agir, souffrir, aimer, que l'amour nous encorde, nous enchaîne.